Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les jeudis, désormais, le réveil culturel se fait en musique. À la coordination, Corinne Amar. À la réalisation, Vincent Abouchard. La prise de son est assurée ce matin par Alain Joubert. Il se lève, c'est l'heure, écrase son mégot dans sa tasse de café, éteint la stéréo, éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Je laisserai le lit comme elle l'a laissé, défait et rompu, les draps emmêlés afin que l'empreinte de son corps reste gravée dans le décor. Elle passe mais ne reste pas, elle danse mais ne rêve pas, elle rêve mais elle ne dort pas, elle pense capoeira. Nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles, on attendait que la mort nous frôle, on the road again. Tout le gang était là. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros d'Harlem, les revendeurs de coke ou de coca. Même sans sa voix légendaire, même sans sa musique sans frontières, on sait qui parle, sa prose et sa meilleure signature. Mon invité aujourd'hui, pas besoin de le présenter.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour monsieur le poète.
Bonjour.
Désormais, on peut lire en plus vos chansons. Vous êtes en tournée, comme d'habitude, ça n'a jamais cessé, on peut le dire. Depuis le début, ça n'a jamais cessé.
Enfin, j'ai du mal à m'arrêter, oui. Mais il faut que je prenne des pauses quand même, et pour voyager, parce que tourner, c'est pas voyager. Hein. On arrive dans une ville, on chante le soir, on repart le lendemain, donc on ne voit rien. Pour voyager, il faut pas chanter, justement. Ou alors s'installer dans une ville et trouver un petit endroit pour chanter, pour écrire. Mais il faut pas se déplacer pour... Faut se déplacer pour écrire, mais quand on se déplace pour chanter, même si on fait le tour du monde, comme moi, on arrive la veille, on fait une petite conférence de presse, on chante le lendemain, on fait une balance à 18h, c'est fini à 23h, et on repart le lendemain.
Comment ça se passe les concerts aujourd'hui, monsieur le poète? Est-ce que vous êtes frustré? Parce que je suppose que le public connaît vos chansons par cœur, donc ils viennent pas vous entendre chanter, ils viennent chanter avec vous?
Pas toutes, non. D'une part les dernières, vous savez qu'ils connaissent toujours les anciennes, hein, les gens. Donc les dernières, faut leur imposer. Il n'y a pas de raison, surtout que je ne les trouve pas si mal que ça, les dernières chansons que j'ai écrites. Ensuite, ils chantent quelques petites choses avec moi, mais pas tout. De toute façon, je ne les entends pas forcément. Il y en a qui murmurent, il y en a qui connaissent que le refrain, connaissent pas toutes les subtilités du couplet. Donc, non, j'ai un public très chaleureux et me donne pas mal d'énergie, c'est ça qui compte.
Je n'ai pas une minute à perdre, je vis. C'est le titre justement de ce recueil des paroles de vos chansons, parce que vous n'êtes pas seulement interprète, compositeur, vous êtes auteur. C'est édité par le Cherche Midi dans sa collection Chants Libres. On peut aussi parler d'un anniversaire avec vous, monsieur le poète.
Ouais. Lequel?
Bon, on en a marre un peu de commémorer mai 68, mais il se trouve que vous avez commencé en 68.
C'est exact, ouais, mais j'ai pas commencé à Paris. J'étais à Paris en 68, pas longtemps. Ensuite, je suis parti du côté de Saint-Étienne et de Lyon, appelé par les syndicats, quand ça a vraiment pris de l'importance, hein, 10 millions de grévistes quand même. J'ai chanté dans les usines pour leur soutenir le moral. Et puis finalement, ça me faisait bouffer, puisque le syndicat me payait un petit peu, chanter l'après-midi dans les usines, pas le soir, hein, toute la journée. Donc j'ai vu même des dames, des femmes qui bossaient à Lyon dans des usines de textile, qui n'avaient jamais fait grève de leur vie, carrément. C'était un événement à l'époque. Elles avaient arrêté le travail.
Ça a été déterminant dans votre vie, dans votre carrière?
Cette partie-là? Je pense pas, 68, il en est resté des bribes plus tard, des analyses plus ou moins philosophiques de la société, des gens qui se sont trompés aussi, pas mal, mais c'est bien de se tromper, hein. Il en est resté mai-juin, parce qu'au fond ça s'est fini vers le 15 juin, hein, pas avant, hein, cette histoire de mai, ça a commencé vraiment vers le 10 mai, et ça s'est fini un mois plus tard. Il en est resté que les communistes s'étaient fait déborder, ce qui n'était pas fait pour me déplaire, personnellement, par des mecs qui n'étaient pas organisés, donc effectivement, ils ont pu rester après. La droite était totalement disloquée, à ce moment-là. Le pouvoir avait vraiment vacillé, parce que je m'en souviens de ça, de l'hésitation terrible de Pompidou, de Gaulle et du ministre de l'Intérieur. Ils savaient pas vraiment à qui ils avaient affaire. En réalité, c'est devenu normal quand les communistes et la CGT ont pris la main et que ça a été la grève générale. Là, ils ont compris, mais au début, ils comprenaient pas du tout ce que c'était que cette... Comment on appelait ça? Une fronde étudiantine.
Très engagé sur le terrain, et pourtant, jamais on vous a taxé de chanteur engagé.
Ça m'arrive, hein. Je réponds que c'est un mot valise, que ça veut rien dire engagé par l'Olympia, hein, voilà. Parce qu'engagé, bizarrement, vous savez d'où ça sort. Ce sont les communistes qui ont décidé que Jean Ferrat, ou même avant, on était engagé à gauche. Donc, et plus près des communistes, c'était mieux. Donc, ça voulait rien dire. Alors, parce qu'un chanteur peut lui-même avoir son regard, un poète, sur la vie qui coule, sur les hasards des rencontres, sur les chemins de traverse, sur les populations qui n'ont rien à voir avec nous, qui n'ont pas les mêmes tempos ni la même bouffe. Moi, je suis engagé dans la mesure où je vis, comme je dis dans mon... comme est le titre. C'est-à-dire que d'abord, je vis et j'écris ensuite. Ce n'est pas le contraire.
Est-ce que toute votre vie est dans vos chansons?
Ah non, non, il y a quelques... Disons que je masque, je raconte des expériences personnelles, mais il n'y a jamais ni de date, ni de lieu, hein, vous avez remarqué.
Cette mélodie qui longe la Seine, du quai des Tournelles à l'île Saint-Louis, je la fredonne et pense à Verlaine, à François Villon, perdu dans la nuit. Mais pour retenir cette ombre qui passe et qui fait semblant de n'être qu'une ombre qui brille et s'efface au fil du courant.
Verlaine, François Villon, ils ont été importants dans votre vie?
Toujours. Toujours, ce sont des ombres, mais des ombres presque matérielles. Quand il se trouvait qu'à un moment donné, je chantais dans un restaurant qui était justement qu'à Montebello, en face de Notre-Dame, rue Maître Albert.
C'était quand ça?
C'était en 66, 67. Hein. Parfois, je chantais là, parfois. Et alors venait là, Aragon, Elsa Triolet, c'était un Irlandais qui avait cet endroit, ça s'appelait La Poterne, ça n'existe plus, restaurant de poissons. Et il y avait Paolo Neruda, de temps en temps. Et j'étais juste en face, ce dont je parle quand on longe la Seine, la nuit, qu'on marche comme un poète, ça peut encore arriver, je suppose. Et les langues, je vais penser à Verlaine, je vais penser à Rimbaud, je vais penser à François Villon, qui est notre ancêtre à tous, à Charles d'Orléans, si vous voulez. Donc la poésie est très très proche de ces quais, il n'y a rien à faire. Apollinaire, enfin, tous ces gens-là, et même Aragon, a chanté beaucoup Paris.
Et mais comment vous avez découvert ces auteurs? Comment vous avez découvert la poésie à l'école, à la maison, tout seul, en longeant les rues de Paris?
Plutôt à la maison avec ma mère, qui lisait beaucoup de poésie. À l'école où j'avais quand même un prof, à l'école primaire, qui écrivait, qui était un surréaliste, hein, faut le faire, Monsieur Dupéré. Il écrivait l'écriture automatique, j'ai découvert ça plus tard. Il était très marrant, il était très fan de Fantomas, ce prof de CM2. Vous voyez?
Donc, c'est pas la pire des références.
Non, ben justement, la poésie et la littérature un peu transversale a toujours fait partie de ma vie. Et finalement, quand je voyage, et j'ai pris des risques assez incroyables en voyageant, je retombe toujours sur mes pieds parce qu'il y a toujours une guitare. J'ai toujours une guitare avec moi, ce qui protège plus qu'un fusil. Et deux, trois bouquins de poésie, que ce soit de Pablo Neruda ou que ce soit de Blaise Sandrart, justement, que j'ai sous la main, là.
Alors, ça a commencé d'abord avec la musique, cette envie de chanter et d'écrire des chansons, ou avec la poésie, l'amour des mots?
Quand j'ai appris la guitare très tôt, savoir jouer de la guitare acoustique, il y a deux styles. En fin de compte, soit vous essayez de jouer Django Reinhardt, je ne conseille pas tout de suite, c'est quand même très compliqué de jouer Django. Mais j'étais très attiré vers cette musique. Et il y a Brassens. Donc si vous savez jouer tout Brassens à la guitare, vous pouvez vous dire que vous êtes un bon guitariste, déjà. Et puis dans Brassens, il y a les mots aussi.
Vous vous souvenez de votre premier poème, texte, écrit?
Il est dans ce bouquin. C'est-à-dire quand je travaille à l'usine la nuit, j'ai écrit la musique plus tard, mais j'ai écrit Les Barbares. À l'époque où j'ai travaillé au Laminoir. Donc... entre 16 et 19 ans. J'écris deux textes. J'écris Saint-Étienne, qui doit être là-dedans, et Les Barbares. Donc une époque où je ne faisais pas la bringue la nuit. Je travaillais plutôt la nuit, de 10h du soir à 6h du matin. Et donc, ce qui me permettait de lire la journée et d'aller à la Comédie Saint-Étienne voir Jean Dasté qui m'a appris le mime, parce qu'il m'a dit, toi, c'est pas la peine qu'on t'apprenne à être acteur, ça sert à rien. Tu vas nous apprendre le mime. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans avec un mime très, très expérimenté qui s'appelait Prosper 10. Et c'est pour ça que sur scène, c'est quoi faire de mes mains, par exemple.
À quel moment vous vous êtes dit, je vais être chanteur, auteur, compositeur, puisque dans une interview, vous disiez que quand vous étiez enfant, une enfant d'ailleurs turbulente, hein, vous avez fait la prison, tout ça, ouais. Vous avez dit et déclaré plus d'une fois que vous hésitiez entre boxeur, gangster ou poète.
Moi, les trois, mon général, voilà.
Ouais, c'est à quoi les trois? Vous étiez le Booba de l'époque?
C'est pas vraiment ça, parce que c'est pas la même chose. Les temps ont changé, vous avez remarqué quand même.
Ouais.
On n'était pas habillés pareil, c'était pas les mêmes mecs non plus. Tout ça a beaucoup changé, bien que au fond, ça soit pas si loin que ça. Sauf que c'est un peu moins, il y a un peu moins le choix maintenant, si vous voulez. En dehors de ça, j'ai commencé à chanter. Est-ce que j'y croyais? J'en sais rien. Je savais jouer de la guitare suffisamment pour pouvoir composer sur des textes et des mélodies. C'était peut-être pas très original au niveau harmonique à l'époque. Et j'ai commencé à chanter, quand j'étais à l'usine d'ailleurs, dans des cinémas. Je louais des cinémas, où ils me le prêtaient, je sais pas, où des amicales laïques de communistes, je chantais peut-être 3 quarts d'heure, des chansons. Mais je mélangeais avec Boris Vian déjà et avec Léo Ferré. Je chantais peut-être 4 ou 5 textes à moi et le reste, je faisais un spectacle si vous voulez. Ce qui est mon métier quand même avant tout.
Comment vous écrivez une chanson?
Alors, ça dépend des jours, mais...
La musique est déjà là, ou juste le refrain, ou juste un air, ou pas forcément, ou chaque chanson a son histoire?
Quelques accords, quelques notes, un tempo. Et je commence à écrire sur... je peux pas dire que j'écris toute la musique, il faut déjà que j'ai des mots qui sonnent. Peut-être je vais écrire le refrain d'abord, j'en sais rien. Par exemple, la dernière chanson qui s'appelle L'Espoir, j'ai traîné le refrain... qui est assez complexe à jouer à la guitare, et je trouvais rien pour faire le couplet. Je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser tomber ce bout de musique, disons 16 mesures, ou 32 mesures. Et à un moment donné, j'ai trouvé ce que j'allais raconter là-dessus, mais j'étais pas parti pour écrire sur l'espoir. C'est qu'après, quand j'ai trouvé « Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais », sur ces accords et sur cette mélodie... j'ai trouvé quelques accords plus simples pour écrire le couplet, donc finalement j'ai écrit sur l'espoir, mais disons que c'est un mélange des deux. Je commence par 2-3 phrases musicales et je mets quelques mots dessus, ou alors j'ai noté mieux vaut jeûner avec les aigles que picorer avec les poulets par exemple, et je me dis tiens, en ce moment je vais faire une chanson, mais ça fait des années que j'ai inventé ce faux proverbe indien et j'ai toujours pas fait de chanson.
Ce soir, les mercenaires du diable ont rafalé sur les tables. Ces pantins noirs au captagon vident leur néon sous les néons. Yesterday, c'était bien vendredi 13. Yesterday, c'est en novembre.
Il fallait vraiment écrire une chanson sur ce vendredi 13 funeste à Paris. Comment on écrit sur des événements aussi dramatiques? On laisse passer le temps,
ouais.
On se promet qu'on ne laissera pas passer cet événement et que ça va figurer dans votre répertoire que vous avez fait?
J'ai laissé passer du temps déjà, hein. Un an et demi. Hein. C'est toujours présent de toute façon. Mais disons que j'ai essayé, il faut pas être vulgaire, faut pas être dans le pathos absolu, c'est difficile. Faut pas non plus une longue plainte, ça sert à rien. J'ai essayé de trouver une correspondance dans ce même Paris entre ces flingueurs aveugles, les gens qui pendaient François Villon à Montfaucon, les gens de l'Inquisition, les gens qui ont assassiné les communards, Et Vichy, quoi, la carlingue, la Gestapo. J'ai essayé de trouver une espèce de correspondance, même politique, avec le nazisme dans ce genre d'attitude, qui, ça n'excuse rien, je cherche pas à excuser quoi que ce soit. Plutôt que de faire une chanson complète sur l'événement, j'ai enlevé beaucoup de textes, parce qu'évidemment, j'avais été trop prolixe, hein. Et dans le refrain, j'ai pratiquement tout enlevé. J'ai gardé juste sur les caissons passent des ombres comme des marins perdus. C'est-à-dire que des gens qui étaient autour du Bataclan, qui cherchaient à retrouver des gens qui étaient dehors, qui avaient réussi à sortir. Et s'ils étaient restés dedans, c'était encore plus sombre. Hein. Et finalement, je dis l'essentiel dans le premier couplet. Et après, j'en parle plus. Je parle plutôt des autres. C'est-à-dire des autres, des inquisiteurs qui agissaient de la même manière, quoi. Donc l'intransigeance, le fait de devenir fou, de se faire laver le cerveau, peut-être, et de tuer avec allégresse qui n'est pas d'accord avec vous aussi. Ce qui est le contraire, quand même, de la pensée de Voltaire.
Ça vient vite, l'inspiration. Ça vous prend beaucoup de temps d'écrire un texte, une chanson?
En réalité, pas vraiment. Ça mature. Les premiers essais, je vais voir s'il me reste quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, je suis extrêmement critique, hein, surtout avec un truc pareil, hein, faut faire gaffe quand même. Je peux pas dire n'importe quoi. Il suffit pas de dire pourquoi c'est canon et je suis contre la guerre, hein, quand on écrit des choses. Faut être quand même un peu plus costaud. Il s'est trouvé que j'ai trouvé la mélodie avec un de mes musiciens, une mélodie, et bizarrement, cette mélodie était plutôt Beatles, je vous signale au départ. C'est un fan de Paul McCartney, comme vous croyez pas. Et j'ai transformé tout ça. J'ai réécrit une partie de la mélodie. C'est d'abord passé par être un reggae dub assez dur. Et finalement, j'ai dit non, ça peut pas être un reggae. Donc, si vous écoutez bien le tempo, ton, 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 ça pourrait être du dub. Sauf que c'est joué par des contrebasses et des cuivres, hein, et des basses électriques. Donc ce premier riff, rendait la tension, déjà. Il faut une tension. Mais il faut pas chanter fort. Faut pas pleurnicher. Faut pas s'envoler non plus. Il faut pas que ça soit lyrique. C'est extraordinaire ce que je vous dis. Alors que c'est du chant. Mais c'est mieux quand c'est pas lyrique. Surtout pour ce genre de sujet. Donc j'ai commencé à écrire ça. Et finalement, le refrain était beaucoup plus long. Et j'y virais les trois quarts. Pour laisser la musique parler à ma place.
Est-ce que vos tiroirs sont remplis de chansons?
Non.
Une fois écrite, la chanson est...
Si elle est mauvaise, en plus, je la balance.
Ça vous arrive de balancer des chansons?
Ouais. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Hein. Et j'aime pas rafistoler, comprenez?
Si c'est pas bien, c'est pas bien.
Les tiroirs sont pleins de carnets avec des tas de notes, des numéros de téléphone à Rio de Janeiro, à Manille, à Manille. Bon, voilà.
Alors, justement, en lisant ce livre, donc cette compilation de 100 textes de vos chansons, Je n'ai pas une minute à perdre, je vis aux éditions du Cherche Midi. On se rend compte qu'on n'a pas inventé pour les chanteurs ce qu'on a tout de suite trouvé pour les écrivains. On dit les écrivains voyageurs, on ne dit pas les chanteurs voyageurs. Et pourtant, vous avez beaucoup, beaucoup voyagé.
Ouais. Mais bon, on peut dire les poètes voyageurs aussi. Je ne suis pas obligé de me mettre dans la catégorie des poètes. Hein. Mais on a dit beaucoup des poètes, des écrivains voyageurs. D'ailleurs, j'ai souvent fait le festival, vous savez, à Saint-Malo, ils sont souvent les étonnants voyageurs. Ouais. C'est toujours des personnages incroyables. C'est là que j'ai rencontré Sepúlveda, par exemple, qui venait d'écrire Le vieil homme qui aimait les histoires d'amour, un truc comme ça. Un tout petit bouquin extraordinaire qu'on lit en une heure d'avion et qui vous balance en pleine jungle. C'est la jungle de l'Équateur, je crois, ou de la Colombie, où c'est un mec qui sait pas lire, mais on lui livre des romans photos. Mais c'est extraordinaire. Bon, il faut le lire. C'est Luis Sepúlveda, c'est un grand auteur. Tout le monde le connaît, je pense, à France Culture. Moi, je l'aime beaucoup.
Samedi soir à Beyrouth, femme voilée, dévoilée, bloquée sur l'autoroute, dans leur voiture blindée. Samedi soir à Beyrouth, univers séparé, solitaire sous la voûte, céleste foudroyé.
Quand vous écoutez ça, vous vous souvenez du pays visité, le Liban, de Beyrouth, ou du jour où vous avez pu écrire ce texte?
J'écris ce texte au bout de... Je suis resté 3 semaines en 2006, parce que les Syriens étaient partis, c'est pour ça que je suis retourné. Bizarrement, c'était au moment où la première manif contre les caricatures de Mohamed. Donc, contre le consulat du Danemark à Beyrouth. Il y avait, un jour, il y a eu, les cars sont venus de Damas, hein. Il y a eu danger à un moment donné. Heureusement, les imams et les prêtres maronites ont réussi à calmer. Mais à mon avis, ça aurait pu repartir très rapidement. C'est une ville très étrange, avec des gens très chaleureux. J'ai le climat, vous voyez la musique que j'ai fait là, c'est très Beyrouth ça, alors que c'est pas vraiment oriental, une sorte de climat, c'est à la fois tendu, très aéré, il y a quelques instruments effectivement, il y a du oud, une sorte de flûte qui s'appelle du nez, mais en fin de compte, j'ai dû écrire ça au bout de 15 jours, à peu près, parce que... Comme dirait l'autre, si vous comprenez la politique des Libanais, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc, c'était la ville que j'ai décrite. Et pourquoi samedi soir? Parce que samedi soir, il y avait un monde fou qui venait d'autres pays où on ne peut pas boire d'alcool, etc. Des gens très riches dans les voitures blindées, sauf que l'autoroute qui passe devant l'aéroport, là, ils étaient coincés. C'est-à-dire que s'il y avait eu un malfaisant, il aurait pu les bombarder comme il voulait. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette tension qui se passe à Beyrouth. Je ne peux pas raconter ça mieux que les Beyrouthins.
Mais vous êtes attiré par la tension d'une ville, par le danger d'une ville, vous qui avez sillonné le monde, de la Jamaïque à l'Afrique, en passant par presque tous les ghettos du monde.
Pas mal, en tout cas, oui.
C'est la musique qui vous attire ou c'est...
Il y a des super musiques, en plus, dans ces endroits.
Où sont les endroits?
C'est les endroits. Je sais que dans ces endroits-là, il n'y aura pas de superflu. Que le mec poète, il va dire l'essentiel, souvent. Comment expliquer? Ça m'attire parce que il y a une urgence à écrire cette chanson-là. Et je sais pas si je retourne dans un an, si je retrouverai les mêmes personnes et le même climat. Ça peut changer. Vous savez, les guerres civiles larvées, ça recommence régulièrement. Et tout change. Donc c'est des pays qui changent non-stop, sans arrêt, beaucoup plus que nous. Nous, on change pas beaucoup. On change lentement.
Avec Nicoletta, bien entendu. Vous les aimez, ces chansons? Vous trouvez que, comme ce sont des tubes, peut-être que ce sont comme les arbres qui cachent la forêt, que vous auriez préféré qu'on découvre les autres chansons?
Non, j'aime bien, moi. Non, parce que c'est pas une merde, cette chanson.
Oh, bah non, on va pas
dire
ça.
C'est un tube, c'est vrai, un des plus gros que j'ai fait. Et je l'ai pas fait exprès, imaginez bien. Si on savait faire des tubes, on ferait que ça, n'est-ce pas? Ou alors on ferait le contraire, si on est snob, on ferait rien qui marche. Comme ça, on peut toujours reprocher à tout le monde de vous empêcher de chanter.
Non, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez écrit Idée Noire?
Oh, on sent bien que je suis pas au mieux, hein.
Ouais.
Non. Quand cette idée, alors il y a une sorte d'ironie parce qu'il y a quand même pas mal d'ironie. La blonde décapitée dans la décapotable, c'est des cauchemars. Enfin, je sais plus quelle actrice s'est fait couper la tête par son écharpe dans une décapotable justement. Une actrice pas très célèbre, je crois, mais qui a des gros seins comme ça. Et je sais pas si
c'est... Isadora Duncan?
C'est peut-être Isadora Duncan. Alors c'est pas... Donc Isadora Duncan qui était une danseuse tout à fait surréaliste, c'est pas celle à que je pense, mais je pense que c'est elle, au contraire. Et contrairement à celle dont je me souviens plus le nom. Non, c'était ce type, il est en pleine... plus que du doute. Il est mécanique, il fait tous les jours la même chose. Il communique avec personne. Il veut partir, ce qui ne veut pas ranger ses baskets du tout. C'est pas parce qu'on part qu'on abandonne son problème. Je sais très bien, on n'emmène pas ses valises ailleurs. Hein.
Vous êtes venu avec un livre.
Oui, c'est Blaise Sandras, correspondance avec Henry Miller. À peu près une centaine de lettres entre Henry Miller et Blaise Sandras. Alors souvent, Henry Miller écrit plus long. Blaise Sandras, des fois, il répond trois lignes. À l'époque, Henry Miller vit à Big Sur. Et Blaise Sandras, il est parfois à Villefranche-sur-Mer ou à Paris. Ou alors, il est autour du monde, je ne sais pas.
Je n'ai pas une minute à perdre. Je vis, c'est édité par le Cherche Midi. Un beau livre avec une centaine de vos chansons.
Exact.
Merci Bernard Lavillier d'être venu ce matin.
Je reviendrai, vous inquiétez pas, je reviendrai.
À l'heure de l'heure de gagner.
Oui, oui.